L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa.
Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'info locale L'un dans l'autre. Bonjour Elsa.
Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous.
Une nouvelle structure a ouvert ses portes en avril 2025, une URTSA, ou unité résidentielle pour adultes autistes, encore rare en France et unique à cette échelle sur notre territoire. Son objectif, proposer un accompagnement adapté à des publics en situation complexe avec une prise en charge globale à la fois médicale, sociale et humaine. Un dispositif qui s'inscrit dans une volonté plus large, mieux répondre aux besoins, éviter les ruptures de parcours et proposer des solutions concrètes au plus près des réalités du terrain. Mais comment fonctionne cette unité? En quoi change-t-elle la prise en charge des patients et de leurs familles? Pour comprendre, nous avons rencontré deux professionnels impliqués dans ce projet, Madame Félix, directrice adjointe de la MAS Paul Gaudron, et Madame Hetfeld, cadre éducatif de l'URTSA.
On les écoute juste après les brèves.
L'un dans l'autre, les brèves. Créée pour la ZOA.
La zone d'occupation artistique, autrement dit la Biennale de la Ville Autrement, fait son retour le 7 mai prochain à Bourg-en-Bresse. Cette fête culturelle met l'art dans l'espace public à la portée de toutes et tous. Cette biennale a pour ambition de transformer de manière éphémère la ville, de souligner l'évolution de l'espace urbain et de déployer des événements responsables écologiquement.
En 2026, 15 installations seront réparties dans le centre-ville avec de nouveaux lieux investis et participatifs.
La ZOA invite donc les burgiennes et les burgiens à prendre part à la création artistique aux côtés d'artistes contemporains. Le 25 mars, venez peindre des moutons avec l'artiste lyonnais Bambi Bakbi. Les 7, 8 et 13 avril, ce sera au tour de Lorraine Motti de proposer des ateliers de peinture grand format. Pour tout renseignement et inscription, rapprochez-vous des médiathèques.
Une étude pour mieux réutiliser l'eau dans l'Ain.
En France, moins de 1% des eaux usées traitées sont réutilisées. En Espagne et en Italie, plus de 10% de ces eaux sont valorisées. Le département de l'Ain a lancé une réflexion autour de la réutilisation des eaux usées en finançant une étude d'opportunité sur tout le territoire indinois. Ce travail a permis de réaliser un document de référence à destination de collectivités qui souhaiteraient se lancer dans ce projet. La plupart du temps, l'eau traitée en sortie de station d'épuration est rejetée directement dans les milieux naturels. La réutilisation des eaux usées traitées consiste à récupérer toutes les eaux traitées ou une partie à la sortie de la station d'épuration.
Et quels peuvent être les usages pour cette eau?
Alors l'irrigation, l'arrosage des espaces verts, la recharge des nappes phréatiques, l'alimentation des zones humides ou encore le nettoyage urbain.
Et pourquoi choisir de réutiliser ces eaux traitées?
Dans un contexte de tension sur la ressource en eau, cette méthode représente une solution pour mieux préserver la ressource et s'adapter au changement climatique. L'étude d'opportunité fournie par le département est donc un outil d'aide à la décision qui identifie les usages les plus propices et qui partagent des retours d'expérience. Le département de l'Ain propose aussi une aide financière incitative pour la réalisation de travaux dans le cadre de la politique de l'eau.
Stop à l'invasion des frelons asiatiques.
Arrivé en France en 2004 par le transport maritime, le frelon asiatique est un insecte invasif. Ce cousin du frelon européen occasionne des dégâts sur la biodiversité. Il est un important prédateur d'insectes. La ville de Bourg-en-Bresse va reconduire la campagne de piégeage de printemps des rennes fondatrices qui permettra de limiter le nombre de nids.
En lien avec le département et le groupement de défense sanitaire, près de 80 pièges sont déployés en ville et chez des particuliers qui se sont portés volontaires.
Le modèle de piège utilisé permet de limiter la prise accidentelle d'autres insectes. Sur le territoire de l'Ain, après avoir financé 900 pièges en 2025, le département a acquis à nouveau 900 pièges supplémentaires en 2026. En 2025, c'est 25 460 fondatrices qui ont été piégées dans l'Ain. Et si vous constatez la présence de frelons asiatiques ou un nid, vous pouvez signaler sur la plateforme www.frelonsasiatiquesaupluriel.fr, qui est donc la plateforme officielle régionale qui lutte contre le frelon asiatique.
L'un dans l'autre, l'interview. Nous sommes avec Madame Félix, directrice adjointe de la MAS Paul Gaudron, et Madame Edfeld, cadre éducative de l'URTSA. Elles reviennent avec nous sur la création de cette résidence. On évoque ses spécificités et les besoins auxquels elle répond aujourd'hui dans le département. C'est une structure encore peu connue, mais qui vient compléter l'offre de soins et d'accompagnement existante dans l'Ain, avec une approche de la prise en charge plus coordonnée et individualisée des troubles du spectre de l'autisme sévère. Pouvez-vous nous présenter cette unité URTSA Paul Gaudron et nous expliquer ce qui la rend unique dans le département de l'Ain ?
Alors l'URTSA, c'est une unité résidentielle pour adultes avec troubles du spectre de l'autisme. C'est une structure médico-sociale qui fait partie de l'association ORSAC et qui a ouvert ses portes le 28 avril et qui est accolée à la MAS Paul Gaudron. MAS, qui est une maison d'accueil spécialisée.
D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a de spécifique ?
C'est une structure qui a été pensée pour des personnes autistes avec des troubles très complexes qui ont plus de 16 ans, qui sont et qui ne peuvent pas vivre dans un collectif et qui nécessitent un accompagnement spécifique au quotidien. Il faut un environnement sécurisé. C'est conçu donc pour répondre à des particularités sensorielles et fonctionnelles, avec un accompagnement individualisé construit avec le résident et ses proches.
On parle de troubles du spectre autistique. Ce terme semble extrêmement généraliste. Quelle réalité ça décrit ?
Alors, ça décrit au quotidien la manifestation de troubles du comportement par des gènes occasionnés, on va dire, soit des gènes au niveau de ce que les personnes peuvent entendre, des gènes occasionnés par rapport à la frustration, par exemple. Et c'est surtout, en tout cas nous, essentiellement à l'URTSA, un public qui est non-verbal et qui n'a pas la capacité de s'exprimer par la parole. Donc, ne serait-ce que pour faire une demande, parfois, ça peut se manifester par des troubles du comportement, des comportements défis. Voilà.
En fait, ils ont une hypersensibilité. Ça peut être... on fait des bilans sensoriels, hein, effectivement, pour mesurer justement à quel niveau ils ont cette sensibilité. On essaie d'adapter l'accompagnement. Alors, certains, ça va être la lumière, d'autres, c'est le son. Certains vont nécessiter des casques anti-bruit. En tous les cas, on va dire qu'il y a quand même un signe, le signe caractéristique, c'est qu'effectivement, des environnements bruyants, trop lumineux, ça fait partie des éléments qui peuvent déclencher sur les personnes que l'on connaît, hein, c'est-à-dire ceux qui sont à l'URTSA, ils sont 6, ça peut déclencher des crises.
D'accord. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'un environnement justement sensoriel adapté. Alors, à quoi ça ressemble ?
Déjà, au niveau du bâtiment, en fait, c'est un bâtiment qui a été pensé pour accueillir ce public. Donc, c'est un bâtiment qui est adapté au niveau des couleurs, du volume, des pièces et des équipements qu'on propose et qu'on utilise au quotidien avec les résidents. Et un environnement sécurisé où les résidents ne peuvent pas sortir comme ils veulent parce que c'est quand même un public qui est en capacité de se mettre en danger et de prendre des risques sur l'extérieur et qui n'est pas en capacité de vivre seul à l'extérieur et qui a besoin d'accompagnement au quotidien. On a des espaces personnels aussi, individuels, la chambre, la salle de bain, une salle d'activité en fait accolée à chaque chambre individuelle qui est adaptée en fonction des besoins de chacun. Donc ça peut être, pour vous donner un petit exemple, sur une salle d'activité d'un résident, lui, il a besoin de ce qu'on appelle un espace bulle, où il se retrouve et il se recentre et il peut être en hypostimulation, c'est-à-dire ne pas être stimulé par la lumière, les bruits, etc. Et c'est une salle qu'on a aménagée notamment dans la salle, enfin la salle d'activité personnelle, on va dire. Pour une autre résidente, ça va être plus une salle qui va être aménagée pour faire des ateliers cognitifs. Donc, on a installé des tables avec effectivement des puzzles, des jeux d'emboîtement, enfin, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est assez individualisé à ce niveau-là. Et on a des espaces collectifs assez restreints. Pour vous donner un exemple, au niveau de la salle, le réfectoire, là où ils mangent, déjà, ils ne mangent pas forcément tous ensemble, parce que ça peut être compliqué pour certains de manger avec les autres par rapport au, notamment aux cris ou ce genre de choses. Et puis là encore, il ne faut pas qu'ils soient stimulés, parce qu'autrement, ils ne pensent plus à manger, en fait. Donc au niveau du réfectoire, certains vont manger face à un mur, par exemple, pour ne pas être stimulés par la lumière ou par ce qui se passe à l'extérieur du bâtiment. Et on a d'autres petites salles. Une salle multisensorielle dans laquelle ils peuvent aussi se retrouver avec du matériel qui apporte de la lumière, de la musique, ce genre de choses. Et il y a une salle d'hypostimulation qui est aujourd'hui en construction. C'est une salle qui est prévue en cas de manifestation importante d'agitation, voire de violence. La personne peut être amenée à être là pendant quelques minutes pour se recentrer sur ses émotions, refaire descendre un petit peu la pression et qu'il ne soit pas stimulé par rien du tout, en fait.
L'idée, c'est de reposer tous les sens, hein, finalement. Ça. Ce sont des personnes fatigables, en fait. Et ça permet l'hypostimulation de repartir après sur des activités. Alors, la plupart du temps, hein, c'est chacun a son projet personnalisé d'accompagnement. C'est très individualisé. La groupalité, c'est vraiment... ça peut arriver, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant, en tous les cas, des 6 personnes que l'on a reçues voilà, depuis l'ouverture et voilà, qui sont là pour prendre le temps, justement, d'apaiser les troubles avant toute chose.
D'accord.
Juste la groupalité, aujourd'hui, c'est 2-3 personnes maximum, en fait, ensemble, qui partagent une pièce avec assez peu d'interactions entre elles, mais ça, c'est aussi une des problématiques de l'autisme. Voilà. Mais en tout cas, on y arrive quand même à avoir ces petits moments de convivialité à 2, voire 3 ou de promenade en extérieur. Voilà.
Mais il y a ce volant, je dirais, d'accompagnement et il y a les outils ensuite hein, qu'on utilise avec une réflexion. On a des éducatrices hein, spécialisées qui travaillent aussi sur cette structure, des aides-soignants et des aides éducatifs qui permettent de développer des outils de communication parce que comme on le signifiait tout à l'heure, chez une personne non verbale, il va falloir trouver une manière de communiquer. Et donc, on a un ensemble d'outils. Alors après, il faut être créatif. Hein. Il peut y avoir des outils basiques qu'on adapte en fonction de la personne pour pouvoir déjà mesurer les besoins, voir ce qui est pertinent, ce qui l'est moins, et penser au rythme de chacun, hein, comme je vous le disais, avec la fatigue, les temps d'hypostimulation, etc.
Vous avez évoqué des couleurs et des volumes adaptés. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, c'est vrai que quand on visite l'URTSA, ça peut nous paraître assez épuré, on va dire, en termes de couleurs, justement, parce que pour éviter aussi la surstimulation visuelle hein, de certains résidents pour qui c'est extrêmement compliqué. Donc, quand on parle de couleurs, ce n'est pas forcément à l'URTSA, c'est plus à la masse, on va dire. Ouais. En termes de volume, c'est notamment en termes de, des espaces individuels ou des espaces collectifs, mais aussi au niveau des couloirs. Parce que c'est un public qui n'aime pas trop non plus se croiser dans le couloir de manière trop proche. Donc, c'est bien d'avoir des couloirs un petit peu plus élargis, puisqu'ils n'aiment pas forcément le contact physique.
Mais il y a aussi, par exemple, ne serait-ce que la salle à manger, effectivement, elle paraît pour 6 personnes assez grande, mais en fait, chacun a son espace. Mmh. Et il faut que chacun ait suffisamment d'espace pour pouvoir manger sereinement. Ce sont des personnes qui jusque-là étaient dans des ruptures de parcours. Donc là, on est dans un lieu de vie, c'est leur résidence, on a du temps. Donc pour chacun, on va réfléchir et chaque année et même chaque 6 mois s'il le faut, on va adapter ce qu'on va pouvoir proposer. Les salles, quand on parle d'une salle multisensorielle, on est sur un format qui est vraiment à la carte. Comme les ateliers cognitifs, tous ne font pas les mêmes choses. Voilà, c'est vraiment avec effectivement une neuropsychologue qui intervient aussi et qui nous aide à décrypter un petit peu ce qui est pertinent et ce qui permet de susciter une forme d'apaisement et ensuite de pouvoir prétendre à faire des sorties pour inclure dans la cité.
Ces outils qu'on utilise ont pour objectif quand même de permettre à la personne de monter en compétence sur certaines choses, qu'il y ait une évolution positive de certaines choses.
Vous avez parlé de rupture de parcours. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors le parcours, en fait, ce sont des jeunes qui ont été identifiés souvent dès leur plus jeune âge. Hein. Pour entrer dans une ERTSA, il faut nécessairement avoir un diagnostic d'autisme. Donc ça veut dire qu'ils ont, pour la plupart, en tous les cas ceux que l'on a reçus, un parcours dans des instituts médico-éducatifs. Et toute leur enfance a été... il y a eu beaucoup de troubles qui n'ont pas permis d'envisager d'être admis dans des structures existantes, hein, parce qu'il existe des MAS, des maisons d'accueil spécialisées, mais qui n'avaient pas vocation à accueillir ce type de personnes avec troubles. Donc souvent, arrivés à la fin, du parcours IME, ils sont censés avoir trouvé une solution, mais la plupart n'en trouvent pas. Donc soit attendent, avec donc ce qu'on appelle les amendements Creton qui permettent d'attendre de trouver des solutions, soit c'est un retour en famille avec les difficultés que ça peut occasionner, que le jeune n'a plus rien. Voilà. Et donc sur le département de l'Ain, il y a un certain nombre de jeunes qui ont été identifiés. Leur dossier était en attente de solution. Et donc le projet URTSA, c'est l'ORSAC a répondu à un appel à projet qui émane de l'ARS, hein, qui est aussi effectivement dans la boucle hein, de ces situations complexes sans solution. Ces dossiers ont été étudiés. L'ARS a fait deux commissions, une commission médicale et une commission administrative. Et c'est là qu'ont été décidées les personnes qui pourraient intégrer l'URTSA.
D'accord. Et donc, ça, c'est l'origine du projet.
Ça, c'est l'origine du projet. Hein. C'est la réponse à cet appel à candidature. On a beaucoup travaillé avec la MDPH pour pouvoir justement mesurer un petit peu le niveau de trouble qui allait se présenter à nous pour pouvoir répondre au mieux aux besoins. Donc, on a réfléchi entre les troubles et l'architecture pour pouvoir être déjà dans quelque chose de cohérent. Il n'y en a qu'une URTSA dans l'Ain, hein. Et donc 6 places. Donc c'est des personnes qui ont maintenant trouvé une solution et au long cours.
Et une structure qui répond aujourd'hui à leurs besoins, que ce soit en termes de santé, de manière globale, en termes d'autonomie et de sociabilisation, en fait, de comment on vit avec les autres, comment on apprend à être avec les autres, et voilà.
Est-ce que ce sont des personnes qui sont amenées à vivre ici sur du long terme?
C'est le projet, en fait. Oui, effectivement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est leur résidence principale. Donc après, certains vont parfois en famille, font des sorties avec la famille, mais reviennent dans leur petit studio, hein, si on peut dire, avec une chambre, une salle d'activité, un petit espace jardin. Mais c'est effectivement prévu pour durer.
Peut-être qu'il y a d'autres familles qui seraient face à des problématiques du même type. Et donc, 6 places, c'est déjà très bien. Mais c'est vrai que c'est peu sur tout un département. C'était l'objectif.
Ça reste quand même le projet des URTSA. C'est un projet national sur les territoires. Hein, il y a certainement des situations complexes de partout. Là, on parle vraiment des plus complexes. Et nécessairement, donc l'URTSA est adapté et est adapté aussi parce que les professionnels qui accompagnent sont un petit peu plus nombreux, parce qu'ils ont des formations adaptées aussi.
C'est des situations suffisamment complexes pour qu'il n'y en ait pas tant que ça sur le territoire, j'ai envie de dire, parce que d'autres masses, y compris la masse Paul Gaudron, peuvent accueillir des publics ayant des troubles du spectre autistique. Mais des publics ayant des troubles du spectre autistique complexes, avec des situations complexes, c'est l'URTSA. Donc, ce qui explique aussi qu'il y a très peu de place.
Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Madame Hetfeld, la masse Paul Gaudron, qui est collée à l'URTSA, est vraiment l'établissement, je dirais, qui elle aussi répond aux besoins du territoire, effectivement, en proposant des places à des jeunes qui ne pourraient pas aller dans une masse traditionnelle parce qu'ils ont encore quelques comportements pour lesquels il faut avoir des niveaux de réponse, il faut avoir le niveau de formation et l'environnement qui fonctionne bien.
Alors, est-ce que vous pouvez juste expliquer ce qu'est une masse traditionnelle pour nos auditeurs et nos auditrices ?
Alors, quand je dis traditionnelle, une masse classique avec une personne qui est très stabilisée, c'est-à-dire qu'elle est... elle n'a pas forcément de troubles. À la masse Paul Gaudron, on a quand même un certain nombre de personnes qui ont encore, quelques troubles du comportement, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir de l'impulsivité. Alors, il y en a peut-être dans certaines des masses du département de l'Ain, mais c'est vrai que la masse Paul Gaudron a répondu à des besoins de résidents au démarrage qui étaient sans solution et qui étaient à l'hôpital, au CPA.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est un peu l'idée, c'était aussi de répondre à ces besoins-là avec la masse Paul Gaudron. Et donc, on a élargi ensuite avec l'URTSA.
Comment les familles sont associées au parcours ?
Alors, je dirais dès le départ, parce qu'on prévoit déjà un accueil les concernant pour leur faire visiter les lieux dans lesquels va être accueillis leurs proches. On fait des entretiens aussi avec les familles pour recueillir au départ le maximum d'informations, parce qu'après tout, même si c'est des personnes qui ont traversé plusieurs institutions, qui connaît mieux ses enfants que les parents. Puis ils ont vécu des choses, eux aussi, au domicile. Ils ont pu constater des choses, ils ont pu observer. Donc nous, on s'appuie fortement sur les parents, en tout cas les proches, en tout cas, pour recueillir le maximum d'informations. Donc on les intègre dès le départ, j'ai envie de dire, dès le départ de l'accompagnement.
Merci à Madame Félix et à Madame Hetfeld pour ces éclairages. Elles avaient à cœur de vous préciser que, concernant les comportements défis, ils désignent des comportements qui posent de véritables défis à l'organisation des structures d'accueil et à l'intégration communautaire. Ils sont caractérisés par le fait de présenter un danger pour soi-même ou pour autrui, de s'aggraver en l'absence d'intervention, de rendre l'intégration sociale et les apprentissages difficiles. L'objectif à l'URTSA est donc de mettre en place des outils valorisant un comportement dit « adapté ». Ainsi, cette structure d'accueil marque une nouvelle étape dans l'organisation des parcours de soins pour les personnes avec troubles du spectre autistique. Pour en savoir plus sur cette unité, ses modalités d'accueil ou les publics concernés, au-delà de notre interview, vous pouvez vous rapprocher des structures de santé locales ou consulter les informations disponibles auprès des professionnels du secteur. Et bien sûr, cette interview est à retrouver en réécoute sur le site de Radio B. Vous écoutez L'un dans l'autre,
le mag d'info locale
sur Radio B. L'un dans l'autre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Merci Perrine et merci à vous pour votre écoute.
On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'info locale.
Restez bien à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
En ligne ou sur 90 FM. L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.